Grand Angle.
La fin ce mardi soir de la trêve hivernale, c'est le grand angle de ce jour. Cela marque la reprise des expulsions locatives. 30 500 ménages ont été expulsés l'année dernière de là où ils vivaient. Un niveau record selon le Figaro Immobilier. Alors si la trêve suspend les expulsions, elle n'efface pas les dettes. Les loyers restent dus et le propriétaire peut en engager ou poursuivre une procédure judiciaire durant cette période. Notre invité est le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice. Bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Tout simplement, comment expliquez-vous ce niveau record d'expulsion en 2025 ? Je rappelle qu'il succède à un nouveau record en 2024.
C'est l'une des manifestations très préoccupantes de l'extension de la précarité dans notre pays. C'est-à-dire que vous voyez bien que vous avez de plus en plus de personnes locataires qui ne sont plus en situation de payer leur loyer ou des charges d'ailleurs locatives. Liés notamment à des questions de énergétiques, parce qu'il y a des pertes d'emploi, parce qu'il y a de trop faibles progressions du pouvoir d'achat, parce qu'on vit déjà dans des conditions difficiles. Et bien l'une des manifestations, c'est hélas cette hausse très inquiétante des expulsions locatives.
Et comment se déroule une expulsion ? Parce que c'est une procédure qui est vraiment très encadrée par la loi.
Elle est très encadrée par la loi, c'est l'un des progrès de ces 20 dernières années, avec toute une série de dispositifs qui sont là pour accompagner les personnes, mais nous voyons bien que cela ne suffit pas, et que cela suffit d'autant moins qu'encore une fois, nous avons une précarisation, une fragilisation d'un nombre croissant de personnes, je pense notamment à des personnes âgées. Ça fait partie de nos grandes préoccupations, que des personnes qui arrivent à la retraite avec des petites retraites, au moment où les charges de loyer ou les charges locatives augmentent beaucoup, elles ne parviennent plus à payer. Vous voyez bien que là, on se retrouve dans des situations dramatiques, mais ça concerne aussi des plus jeunes. Et il est donc nécessaire qu'il y ait là des procédures qui permettent d'éviter ces situations-là, qui soient renforcées au regard de ce qui existe déjà.
Et justement, après ce 31 mars, quels sont les recours des locataires en difficulté ?
Écoutez, il y a des recours auprès des bailleurs, auprès des, lorsqu'il s'agit de bailleurs sociaux, il y a des recours auprès d'associations qui sont là pour accompagner les personnes, il y a des instances de médiation, tout cela est là, mais vous voyez bien qu'il y a la nécessité que du côté du ministre du Logement, qui est quand même extraordinairement absent sur ces questions-là, qu'il y ait une prise de conscience. Que l'on cesse aussi d'ailleurs cette petite musique qui est la particularité de ce ministre du Logement après quelques autres qui est d'essayer de culpabiliser les personnes qui n'arrivent plus à payer leur loyer, voire de les criminaliser. Vous vous souvenez qu'à une époque, l'un de ses prédécesseurs, M. Kasbarian, voulait envoyer en prison les personnes qui ne parvenaient plus à payer leur loyer. Donc évidemment, tourner le dos à ce genre de logique et au contraire, renforcer les accompagnements parce que là, on a des situations dramatiques.
On parlait de Vincent Jeanbrun. Vincent Jeanbrun qui fait la différence entre, dit-il, les familles fragiles pour lesquelles il faut poursuivre des mesures d'accompagnement et les spécialistes, dit-il, qui année après année ne payent pas l'intégralité de leur loyer avec une forme de malveillance. Ce sont ces mots, les spécialistes dont il parle, est-ce qu'ils existent ?
Écoutez, ce qui existe, ce sont certains ministres comme ce monsieur spécialiste de la stigmatisation. Vous savez, ça commence à bien faire d'essayer de mettre les gens dans des cases au vu d'analyses qui n'ont pas de sens. C'est l'époque, encore une fois, comme lorsque M. Kasbarian voulait mettre en prison des gens qui ne pouvaient pas payer leur loyer. La question n'est pas de savoir quel est le jugement de valeur qu'un ministre porte sur la situation des personnes. La question est que l'on puisse effectivement lutter contre les quelques abus que subissent certains propriétaires. Je pense notamment aux propriétaires qui sont eux-mêmes fragilisés, pour lesquels c'est très compliqué. Mais l'immense majorité des personnes en situation d'expulsion, de risque d'expulsion, sont des ménages, des personnes seules qui sont en situation de grande fragilité. Et leur seule spécialité, c'est la survie. Et donc, il serait temps que ce ministre se préoccupe de cela plutôt que de jeter en pâture un nombre grandissant de personnes dans ce pays.
C'est important, hein, ce que vous soulignez. Cela peut mettre des propriétaires en difficulté aussi. Est-ce qu'il faudrait établir une forme de différence entre les locataires qui n'arrivent pas à payer leur loyer faute de moyens à un bailleur public ou alors à un grand organisme privé et les locataires dont le propriétaire est un particulier qui a besoin de sa rente locative ?
Écoutez, je pense effectivement qu'il y a une attention particulière à porter aux propriétaires qui sont eux-mêmes dans une forme de précarité. C'est un faux paradoxe, cela existe, vous savez, des hommes et des femmes, et notamment des personnes âgées, qui sont propriétaires de leur logement, mais qui vraiment ne roulent pas sur l'or. Donc là, effectivement, je pense qu'il faut veiller à protéger ces propriétaires-là, mais il faut, je dirais, surtout veiller à accompagner dans un moment où la précarité va grandissante, touche d'ailleurs de plus en plus de personnes qui travaillent, ou des personnes qui ne sont plus en situation de travailler, ou comme je le disais, des personnes qui accèdent à la retraite, mais dans des conditions de grande fragilité. Ce sont ces personnes-là qu'il faut pouvoir accompagner à travers des procédures d'accompagnement, de prévention, d'accompagnement, de conseil, de manière à éviter qu'on les retrouve dans les rues, alors même que, je le rappelle, nous avons encore des milliers de personnes à la rue sans solution.
Des milliers de personnes à la rue sans solution, aujourd'hui en France, hein, cela malgré les promesses du chef de l'État au début de son premier mandat. Chaque président de la République d'ailleurs fait la même promesse lorsqu'il entame un mandat. Or, il y a des solutions, il y a des leviers d'action pour éviter cela ?
Oui, d'abord, il y a des leviers rapides qui sont de dimensionner l'hébergement d'urgence que gèrent nos associations de manière à ce que nous n'ayons plus personne et notamment plus d'enfants dans les rues. Ça, c'est une première chose et je le redis au moment où les discussions budgétaires restent préoccupantes. Nous avons maintenant un budget. Mais c'est un budget qui est encore marqué par l'insincérité budgétaire, c'est-à-dire qu'en réalité, comme hélas traditionnellement, on prévoit des crédits budgétaires de l'État dont on sait qu'ils sont insuffisants pour assurer le financement d'hébergement d'urgence, et donc il faut les compléter en cours d'exercice. Donc j'attends du gouvernement et du Parlement qu'ils fassent cela et qu'ils dimensionnent l'hébergement d'urgence. Mais ce qu'il nous faut aussi, c'est agir structurellement sur les raisons pour lesquelles des personnes se retrouvent à la rue. Qui trouve-t-on à la rue ? On retrouve à la rue des gens qui travaillent, mais dont les niveaux de rémunération ou les conditions, je pense notamment à des femmes seules avec enfants et qui travaillent, sont telles qu'elles ne parviennent pas à se payer un logement. Il y a donc une vraie question posée aux entreprises sur la manière dont elles rémunèrent, notamment les femmes seules avec enfants, mais pas seulement, ces travailleurs et ces travailleuses pauvres. Vous trouvez là des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Et vous savez qu'on n'a pas cessé de fermer les capacités de prise en charge dans les hôpitaux psychiatriques en France depuis 15 ans, 20 ans. Eh bien, ces personnes, nous les retrouvons dans les rues. On a besoin aussi que des étrangers qui ne demandent qu'à travailler et qui aujourd'hui en sont empêchés faute de titre de séjour puissent travailler et quitter les hébergements d'urgence et la rue. Voilà, nous avons besoin de politiques structurantes qui s'attaquent aux raisons pour lesquelles vous avez des personnes à la rue, tout en veillant à ce que l'urgence soit satisfaite, c'est-à-dire qu'on prenne en charge les personnes qui s'y trouvent aujourd'hui.
Est-ce que l'une des solutions ne serait-elle pas de automatiser l'accès aux différentes aides, comme par exemple le RSA? Il y a un grand nombre de personnes qui pourraient être allocataires du revenu de solidarité active qui n'en font pas la demande, et cela représente un montant d'ailleurs particulièrement important.
Oui, c'est une demande constante de nos associations et des personnes concernées, c'est-à-dire que on sait qu'aujourd'hui à peu près 20 à 30% des personnes qui devraient bénéficier par exemple du RSA, vous le citiez, n'en bénéficient pas parce que c'est trop bureaucratique, c'est trop complexe, et donc de longue date, nous demandons une automatisation. Ce qui d'ailleurs avait été annoncé, lancé en 2017. On n'y est toujours pas, on a appelé ça le revenu universel d'activité, puis le prélèvement à la source, puis aujourd'hui ça s'appelle l'allocation de solidarité unique. Peu importe, ce que nous demandons, c'est que nous puissions, on a su faire l'impôt à la source, on doit savoir faire le prélèvement, le versement automatique des prestations sociales, de manière à ce qu'on sorte de la bureaucratie. Vous savez, les personnes en situation de précarité et de fragilité, elles sont comme toutes les Françaises et les Françaises, de manière démultipliée, elles souffrent de la bureaucratie. Donc simplifions ces procédures de manière à ce que des personnes qui ont droit à des minimums sociaux puissent y avoir accès de manière automatique.
Oui, parce que vous l'avez rappelé, ce sont des personnes qui sont dans une situation psychologique, parfois même psychiatrique difficile, et il est encore plus difficile pour ces personnes de demander ces aides et de faire ce type de démarche. Et ça, il faut le souligner.
Oui, il y a à la fois une réticence, que l'on ait des problèmes de santé mentale ou pas, une réticence à solliciter cette aide, parce que beaucoup de personnes ne veulent pas demander l'aide. Hein, voilà. Ça, c'est une réalité. Il s'y ajoute des complexités bureaucratiques, notamment par la dématérialisation généralisée, qui font que, en réalité, c'est extraordinairement complexe. Donc, voyez bien, quand vous êtes déjà poussé dans les marges de la société, combien c'est compliqué de s'y retrouver dans ces méandres bureaucratiques.
Merci beaucoup, Pascal Brice.
Merci à vous, Monsieur Calonne.
Je rappelle que vous présidez la Fédération des acteurs de la solidarité, la fin de votre émission Grand Angle. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.
C'était Grand Angle.